Bonjour à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous de Bain de Culture. Avec nous ce dimanche, Samuel Doc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes actuellement au Maroc pour présenter votre dernier livre. Je l'ai entre les mains, ça s'appelle « Éloge indocile de la psychanalyse ». On va en parler, on va parler de votre profession, de nos ressorts intimes aux uns et aux autres. On va parler aussi de vos passions, puisque vous avez comme particularité de ne pas rester sur votre réserve. Vous n'hésitez pas à vous ouvrir, à parler de vous-même. Alors on va y aller, on a une heure devant nous, mais Samuel, on commence par brosser votre portrait avec Camille Marigaud.
Psychologue, romancier et nouvelliste. À 35 ans, Samuel Doc a déjà écrit plusieurs ouvrages remarqués. L'homme a de la répartie, de l'humour, il sait vulgariser son propos et c'est sans doute ce qui lui vaut d'être régulièrement invité sur les plateaux de télévision en France. On fait appel à lui pour éclairer les nombreuses facettes de la société et de nos parcours personnels, de notre intimité également. Samuel Doc, un passionné des mots, de l'écriture, sa mère était bibliothécaire, c'est elle qui lui a transmis le goût des livres. Et depuis, il écrit sur les sujets les plus variés. Sans froideur, il se livre lui-même bien volontiers. Ses livres sont salués par les critiques, bien accueillis par le public. Et parallèlement à sa carrière d'écrivain, Samuel Doc exerce aussi toujours le métier de psychologue clinicien à l'hôpital Robert Debré de Paris. Samuel Doc est l'invité de Bain de Culture ce dimanche.
Samuel Doc, votre dernier livre sur la psychanalyse, une sorte d'abécédaire où vous définissez près de 130 notions. On peut donc piocher au gré de nos envies, de nos centres d'intérêt. Cela va de A comme abandon à Z comme zone érogène, en passant par bourgeoisie, famille, jeux vidéo. Vous-même, Samuel, vous n'êtes pas psychanalyste encore. Vous êtes doctorant psychanalyste, c'est-à-dire vous êtes en analyse, vous commencez à étudier.
Alors oui, vous avez raison de le préciser. Peut-être pour préciser pour nos auditeurs, je rappelle qu'un psychiatre, c'est une personne qui a fait médecine et qui donc se concentre plutôt quand même sur le corps et le substrat somatique des pathologies mentales. Un psychologue, c'est mon cas, c'est ce que je suis, a fait un master 2 de psychologie clinique à l'université, que moi je complète actuellement, si on peut dire, en faisant une thèse à l'université Paris 7, Paris Diderot, pour devenir docteur en psychopathologie, en psychanalyse, c'est-à-dire pour avoir une sorte d'ouverture théorique sur la psychanalyse. Et en même temps, les psychanalystes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui ont fait une psychanalyse et qui le sont devenues à leur tour. Quant aux psychothérapeutes, ce sont des personnes qui se réclament du soin psychique. Et alors aujourd'hui, en France, j'ai cru comprendre que c'était la même chose au Maroc. L'accès à ce titre est réglementé et il faut avoir une certaine pratique avec des patients pour pouvoir se dire psychothérapeute. Il ne suffit plus aujourd'hui de coller une plaque à la surface du mur devant chez soi, comme c'était le cas pendant longtemps.
C'est réglementé aujourd'hui. Vous avez fait des études de psychologie à l'université. Vous l'avez dit, vous dites qu'à l'époque, ce n'était pas pour devenir psy vous-même. Vous vouliez être écrivain et vous vous disiez que ces études vous aideraient à imaginer, à ciseler les personnages de vos romans.
Tout à fait, c'est incroyable que vous l'ayez noté. À l'origine, c'est vrai et c'est toujours le cas, j'inscrivais les mots au cœur de mon existence et quand je me suis inscrit en psycho, je craignais, alors c'était peut-être une angoisse très adolescente, mais d'être formaté par des études littéraires, alors qu'en psychologie, je me disais peut-être que ça va donner de la densité à mes personnages. Et d'ailleurs, c'est ça qui est paradoxal, c'est que j'ai le sentiment de, pour mieux comprendre mes patients, de lire Dostoïevski et de lire Freud quand j'ai besoin d'écrire de la fiction. Donc c'est un peu le paradoxe. Et en définitive, ce qui s'est produit, c'est que moi-même, je me suis retrouvé en grande souffrance psychique à un moment donné de ma vie. J'ai trouvé du secours auprès d'un analyste. Et là, je me suis dit, Et puis un peu plus tard, je suis devenu soignant à mon tour pour permettre à d'autres d'emprunter la voie que j'avais empruntée. Mais il y a eu cette bascule qui s'est faite. Et je me suis rendu compte que moi aussi, je pouvais apporter un mieux-être grâce à l'écoute et à la parole.
Le choc, ce qui vous a déstabilisé, je le dis puisqu'il en est question dans votre ouvrage, c'est qu'à 20 ans, vous avez perdu votre meilleur ami dans des conditions absolument tragiques.
Oui, c'était très dur, effectivement. Il est décédé d'une overdose et j'ai dû aller identifier le corps à la morgue 3 jours après qu'on l'ait trouvé. Et comme souvent, lorsque vous avez une souffrance psychique, c'est quelques temps plus tard que j'ai vraiment eu une névrose obsessionnelle assez forte qui s'est développée. Et vous ne trouvez plus vraiment les ressources, le secours en vous-même pour parvenir à sortir de cette situation. Et par chance, comme je faisais des études de psycho à ce moment-là, j'ai su appeler à l'aide assez vite pour qu'on puisse me venir en aide. Oui.
Vous dites que la psychanalyse vous a sauvé.
Ah oui, clairement, très franchement, et je le raconte dans le livre, je pense que dès l'introduction, je pense que le lecteur est immergé dans cette souffrance qui était la mienne. Je pensais au suicide, c'est-à-dire que vraiment, je ne concevais plus du tout d'exister en ayant mon psychisme qui était complètement embrasé, phagocyté par des angoisses qui vraiment m'asphyxiaient et faisaient qu'une sorte de voile noir s'était levé entre le monde et moi. Et il était vraiment nécessaire que quelqu'un puisse entendre cela, entendre cet indicible, pour qu'il cesse de me faire peur et peut-être que je puisse le lier à moi et justement m'en débarrasser.
Samuel, vous avez eu quelques mésaventures avec les psychanalystes. Vous en avez épuisé quatre avant de trouver le bon, je crois. Le bon, c'était le cinquième.
Exactement. Oui. J'ai eu quelques difficultés. La première que j'ai rencontrée, elle avait un espèce de grand bloc-notes qu'elle mettait devant ma tête comme ça, et elle prenait ses notes et ça faisait écran et j'arrivais pas du tout à lui parler. Le deuxième, c'était un psychanalyste lacanien. Je ne sais plus quelle question il m'avait posée et je lui ai dit mais je ne sais pas. Et il m'a hurlé dessus. « Mais si, vous savez, bien sûr que si, vous savez, la vérité est au fond de vous. » Ça n'invite pas franchement à la parole. Une autre avait les cheveux qui touchaient le plafond et elle avait l'air encore plus déprimée que moi. Je me suis dit « Si je lui raconte mes problèmes, on est foutu. Je ne réponds plus de rien. »
Vous vous sentiez plus mal à la sortie du cabinet qu'à l'entrée.
Exactement. Voilà, je sentais que quelque chose clochait. Et puis, au bout du compte, un autre qui dormait. Malheureusement, les clichés sont parfois vrais. Il roupillait. Il fallait que je quitte la séance. « Excusez-moi, je vais y aller parce que là, il est temps. » Et j'ai rencontré finalement mon analyste, le docteur Gilbert Diebold, qui a été vraiment un homme absolument exceptionnel, on peut le dire, déjà de par son humour, de par sa vivacité d'esprit et surtout par sa capacité à encaisser c'est-à-dire toutes mes angoisses, l'agressivité que je pouvais avoir dans la détresse et qui est resté impassible face à tout ça pour me permettre de le devenir à mon tour. Impassible.
La particularité aussi, Samuel Dock, de cet homme, de ce thérapeute, c'est que c'est quelqu'un qui a de l'humour.
Voilà.
Et qui vous a fait rire d'entrée de jeu, je crois, dès
oui,
la première
oui,
rencontre.
Oui. Oui, exactement. Parce que et je me rappelle d'une séance où je lui disais, écoutez, aujourd'hui, ça va pas du tout, je dois vous parler de quelque chose de très grave. Il fait, écoutez, monsieur, oui, d'accord, mais d'abord, il faut que j'aille mettre des sous dans le parc-mètre. Alors je me dis, mais il se moque de moi, qu'est-ce qu'il va faire là? Et je le vois passer devant, il quitte le cabinet, je le vois passer devant la fenêtre, comme ça, un gros bonhomme, voilà. Et il revient, il fait, bon, allons-y. Et j'étais tellement déstabilisé. Et finalement, là, ce que j'allais lui raconter, cette espèce d'empreinte du désespoir avait perdu toute saveur et on s'est presque mis à en rigoler. Il avait réussi à faire une sorte de rupture dans le cadre qui a dédramatisé un petit peu cette charge anxieuse qui était la mienne.
Vous parlez de vous-même dans ce livre, je le dis, c'est un abécédaire. Il y a des entrées, il y en a une qui s'appelle Média. Alors, moi je suis journaliste, évidemment je me suis précipité dessus. Vous y parlez de votre façon de vous exprimer sur les plateaux, vous parlez de cette façon d'y mettre une certaine légèreté. Vous parlez de ce croisement incongru entre le sérieux et la légèreté pour rendre votre propos digeste. Vous parlez aussi de votre rapport avec les patients. Vous dites que Freud préconisait de traiter avec eux avec une certaine froideur. Lacan, de ne surtout pas répondre au manque du patient pour entretenir le désir. Vous, vous dites que vos patients, vous les aimez. Bien sûr, il faut aimer profondément son patient, peut-être sans jamais le lui signifier, mais l'aimer.
Oui, c'est juste. Il y a bien sûr que nos émotions, nos affects rentrent en ligne de compte. Bien sûr qu'il faut avoir une sorte de pulsion de vie, une pulsion d'éros extrêmement forte pour s'aventurer avec l'autre vers ce continent obscur de lui-même, vers sa souffrance, et pour que peut-être il puisse s'aimer lui-même aussi. Alors il ne s'agit pas d'un amour, vous savez, romantique. C'est quelque chose de particulier à la relation dans ce qu'on appelle le transfert, c'est-à-dire dans tout ce que rejoue le patient de son histoire à travers nous, et dans le contre-transfert. Tout ce qu'on lui renvoie et tout ce qu'on peut ressentir pour lui. Mais je crois quand même qu'il faut un certain fantasme, au moins un fantasme de réparation. Si je veux réparer l'autre, c'est aussi parce que je crois en lui et parce que ces ressources que lui n'arrive pas à identifier, ben, moi je peux les voir. Et sur les médias et sur la première partie de votre question, oui, tout à fait, j'ai été pas mal sollicité ces dernières années pour intervenir sur différents sujets de société et faire vivre un discours psychanalytique. Et c'est une position qui se discute, que je remets souvent en cause même dans ma propre posture. C'est à la fois, je pense, que la psychanalyse a tout intérêt à quitter sa tour d'ivoire et à parler du monde qui l'entoure si elle veut perdurer. Il faut sortir de... Et en même temps, l'autisme du cabinet a parfois aussi du bon parce que à trop vulgariser certains concepts, on risque de les gadgetiser et la psychanalyste peut perdre un peu de son indocilité à elle face à une société de plus en plus tournée vers la consommation, vers l'hyper-individualisme. Donc j'essaie de funambuler, même si depuis quelques temps, je me fais un petit peu... étant donné l'aggravation du contexte politique en France, je me fais un peu plus rare. Voilà, je fais un peu moins entendre ma voix.
Pour quelle raison ?
Parce que je me reconnais pas toujours dans les positions qu'adoptent les médias, par exemple à l'égard des violences policières qui sévissent actuellement en France, et que je ne souhaite pas y apporter ma voix en réalité. Voilà. Et alors je m'engage différemment, j'écris différemment, des tribunes sur les réseaux sociaux. J'ai un engagement qui dépasse un petit peu le cadre clinique parce qu'il est nécessaire, parce qu'il est vital aujourd'hui de condamner ces violences policières, mais je ne le fais pas dans les médias.
Samuel, je vous propose que l'on marque une pause musicale. C'est vous qui me l'avez suggéré, ce titre. On écoute Aurora, elle est norvégienne, elle a 23 ans. He told me I could walk away, but I wouldn't get far.
Midi, un bain de culture avec David Labo.
Tell me how do people know what is hurt, what is love? He told me I belong in a churchyard. Words pointy like arrows, wounds no one can see. He closed all the windows as his anger broke free.
Aurora dans Bain de Culture. Samuel, vous me disiez que vous l'avez vue en concert.
Oui, 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 c'est une artiste pour laquelle j'ai vraiment une admiration, voire une affection immense pour cette artiste. Là, lorsque vous m'avez dit, alors est-ce qu'il y aurait des chansons que vous aimeriez entendre à la radio, j'ai pensé à celle-là, je la donne dans le livre parce qu'elle parle de l'emprise dans cette chanson. Et il m'a dit que ma place était au cimetière, il m'a dit que je pourrais fuir, mais je n'irai pas bien loin. Qu'est-ce que les gens savent de ce qu'est l'amour et la haine? C'est extraordinaire d'intelligence. Elle a compris des choses très freudiennes. Et oui, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour elle et je suis très content que vous l'ayez passé. J'invite tout le monde à écouter. Ça fait du bien.
Merci à vous. On a pris beaucoup de plaisir. C'est ce qu'on se disait avec Salma qui réalise l'émission, qui est juste derrière la vitre et qui me faisait signe avec le pouce que c'était très bien. On est bien d'accord. On va s'arrêter sur deux termes dans le titre de votre livre, Éloge indocile de la psychanalyse. Éloge indocile. Éloge tout d'abord. La psychanalyse, un espace indispensable où on peut tout dire sans redouter d'être jugé pour le coup.
En théorie, il faut pouvoir parler librement. Peut-être que j'expliquerai pourquoi en théorie quand j'expliquerai indocile. Mais oui, c'est un espace de promotion du langage, de créativité, de l'imaginaire, dans un monde où tout va toujours trop vite, où on ne prend plus le temps d'être face à l'autre, de parler. Enfin, finalement, vous êtes peut-être un peu psy, vous aussi, David, puisque vous faites venir des gens et vous parlent. Je suis en train de le faire et vous cultivez une certaine parole. C'est ce qu'on essaye de faire. On essaye aussi de faire vivre un sens sur cette parole-là. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'une résistance à travers la psychanalyse. C'est réussir à être dans un moment où on pense à soi, où on fait vivre son univers intérieur et on renoue un petit peu avec le passé qui nous a constitués.
Et puis indocile.
Indocile parce que malgré tout, je ne souhaitais pas rédiger un livre qui ne soit qu'un portrait forcément radieux de la psychanalyse, alors que j'ai certaines critiques à faire à l'égard de tout le versant idéologique de la psychanalyse, du fait aussi qu'on entende tout le temps les mêmes analystes dire la même chose, ne pas s'adresser au public mais uniquement à l'entre-soi avec une posture de surplomb, de gourou parfois même, qui me dérange profondément. Et c'est pour ça que j'étais un peu rétif. Je crois aujourd'hui que si on veut sauver la psychanalyse, il faut pouvoir la critiquer.
Parce que la psychanalyse a besoin d'être sauvée, elle est menacée.
Elle est menacée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la recherche psychanalyse, notamment en psychanalyse, a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de budget que de nombreux livres faisant des critiques de la psychanalyse, mais on va dire un peu injustifiées, injustes, ont été publiés. Et les patients se tournent peut-être vers d'autres méthodes thérapeutiques. Alors peut-être aussi parce qu'ils ont été déçus de la psychanalyse et qu'ils ne s'y retrouvent pas. Mais ça mérite de le penser, je crois.
Le travers des experts, de ceux qui détiennent le savoir, l'incapacité par moments à vulgariser, à énoncer les choses simplement et clairement. Vous racontez que certains de vos confrères, quand ils doivent lire les livres écrits par d'autres psychanalystes, ils sont tellement perdus que pour le faire, ils doivent avoir un dictionnaire de la psychanalyse sur les genoux.
Et exactement, et pour être tout à fait honnête, vous voyez, moi je suis dans ma dernière année de doctorat, parfois je lis des articles et je me dis, mais à qui s'adresse la personne? Et qui, enfin, franchement, c'est incompréhensible, même avec un dictionnaire. Et je me dis, mais de quoi, enfin, voilà. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, c'est ça. Je pense qu'à un moment, il faut quand même pouvoir savoir de quoi on parle. Et puis, il y a aussi peut-être le problème de ce qu'on appelle la clinique, c'est-à-dire le rapport au patient. Parfois, aujourd'hui, on est encore dans des relectures de Lacan, dans des relectures de Freud, et on ne parle plus des gens. Et moi, j'ai envie de parler des gens et de faire parler les gens, nos patients.
Samuel Doc, je l'ai dit à plusieurs reprises, vous n'hésitez pas à parler de vous-même dans vos livres, dans ce que vous faites, de ce que vous êtes, de ce qui vous fait vibrer. Alors, on en parle. Samuel, vous aimez passionnément une artiste. Vous vouez un culte à la chanteuse française Zazie. Ah, mais je suis désolé, j'ai les preuves, j'ai les pièces à conviction. Vos textes sont enflammés. Vous avez commencé à l'écouter tout petit, vous aviez 7 ans. Elle était au tout début de sa carrière. Dans un texte que vous avez écrit ensuite sur elle, je vous lis. Je me sentais bien dans cette chaude sphère que cette chanson dressait autour de moi. La chanson « Je tue il », c'est de celle-ci dont vous parlez. J'avais la vie devant moi, je ne savais pas encore que je la passerais avec toi, Zazie. De fait, vous ne vous êtes jamais quitté. Vous avez suivi sa carrière attentivement, passionnément. Vous êtes allé la voir en concert avec votre petite sœur Salomé. Vous avez dansé, vous avez versé quelques larmes aussi. Et puis, il y a 6 ans, dans un article dans le Huffington Post, c'était pour la sortie de son nouvel album, vous dites au lecteur tout le bien que vous pensez de cet album. Et puis, vous vous lancez, vous déclarez votre flamme publiquement à Zazie. Vous lui dites combien elle a compté pour vous. Qu'elle était là, présente dans vos pensées au moment clé de votre vie. Elle vous a lu, elle vous a écrit à son tour. Et quand son, 3 ans après, je crois, quand son intégrale est sortie, elle vous a demandé d'écrire un texte sur elle, ce que vous avez fait. Il est sur votre blog, j'invite les auditeurs à aller le voir. C'est un texte très long, très personnel et oui, enflammé.
Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup le travail de cet artiste, peut-être pour les mêmes raisons qu'Aurora, c'est-à-dire que ce sont des artistes qui vont vraiment sur le terrain de l'intime, qui en font une matière artistique. Georges Barak avait cette formule, il disait « l'art est une blessure qui devient lumière » et je pense que Zazie excelle à faire ça. Elle a eu cette chanson qui s'appelle « Si j'étais moi », qui est une chanson sur la dépression que je trouve d'une justesse folle, qui est peut-être même plus juste que certains traités de psychopathologie que j'ai lus sur cette fait sur cette affection psychique. Et j'ai eu une chance immense, c'est-à-dire que je me souviens que j'étais à Rome, je me lève, je reçois un mail et effectivement je reçois cette proposition pour collaborer avec elle et rédiger son portrait. Et là où elle a été vraiment formidable, c'est que dans ce portrait justement il y a des petits bouts d'elle et de moi qui se mêlent, et je parle un petit peu de moi, de mon histoire, pour justement expliquer par identification ce que les personnes qui aiment le travail de cet artiste peuvent retrouver. Et voilà, on grandit avec une artiste. Moi, j'ai vraiment grandi avec elle au fur et à mesure des albums, avec toujours cette grande admiration, surtout pour cette polymorphie, sa capacité qu'elle a à changer de peau, à changer de ton sans arrêt, pour penser le monde qui l'entoure et penser toute cette galaxie, cette constellation d'affects qui est la sienne.
Et dans ce texte que vous lui aviez écrit à sa demande, vous concluez en disant « Si un jour j'ai la chance de mourir vieux et rassasié d'existence, aimé d'amour, lesté d'écrit, si allongé dans un lit blanc il me faut clore la bande originale de ma vie, je n'aurai pas dans l'oreille les mots consolants de mes parents, je n'aurai pas ce qui aura manqué, mes rages adoucis ou mes poésies domestiquées. Non, je t'aurai toi, ton sourire et ta voix, ce qu'elle a toujours été pour moi, une grâce contre la peur. » Et vous concluez en citant les paroles d'une chanson de Zazie, « Moi je roule et je file dans une auto sans mobile. » Et cette chanson, c'est Tous des anges.
Tous des anges, drôles d'oiseaux dans le gris du ciel. Tous des anges, de là-haut, cette vie est belle. Tous des anges, je me roule.
Vas-y, que je vais être obligé d'interrompre, on est pris par le temps, on l'écoutera peut-être un peu plus tard dans l'émission. Le conseil aux auditeurs, Samuel Dogg, donc pour se libérer de ses fantômes, aller voir un psy et puis écouter un album de Zazie.
Peut-être, et puis lire aussi, lire intensément, lire beaucoup, puisqu'on trouve dans la littérature aussi de quoi se représenter nos conflits psychiques. Toujours est-il qu'il faut s'autoriser à franchir parfois la porte du cabinet de consultation, le faire le plus tôt possible quand on se sent vraiment mal. Souvent, un trouble psychique ne s'étend pas dans la durée s'il est pris en charge tôt. Et j'espère que ce livre donnera envie aux personnes qui le liront de se découvrir elles-mêmes, justement par cet espace-là.
Samuel, parlons de votre présence ici au Maroc, à Tanger. Si vous êtes venu, ce n'est pas un hasard. On parle d'histoire, de liens, d'amitié avec Zazie, d'admiration réciproque aussi, j'imagine. Eh bien, vous avez tissé un lien amical également ici, de ce côté-là de la Méditerranée, avec une libraire de Tanger.
Oui, exactement. Stéphanie Gaou, que je salue et qui m'a fait l'honneur de m'inviter ici à Tanger pour présenter mon travail à l'occasion de l'anniversaire des 10 ans de la librairie Les Insolites qu'elle a créée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, voilà, moi je la connais à l'origine depuis, je pense, 12 ans sur les réseaux sociaux. On avait sympathisé par l'intermédiaire d'un écrivain qui s'appelle Afid Agoun et voilà, qui avait écrit dans un recueil de nouvelles que j'avais dirigé et qui parlait du couple. Et Stéphanie, enfin, j'ai eu un espèce de coup de cœur virtuel, mais non moins réel, pour cette Amazone des mots et de la culture qui n'hésite jamais à dire ce qu'elle pense, qui n'hésite jamais à faire vivre le monde des arts, le monde du papier. Je sais qu'elle y tient beaucoup. Et croyez-moi, dans un univers où tout devient de plus en plus, on va dire, désincarné, superficielle, individualiste, ça fait vraiment du bien de voir une personne qui a le courage de dire voilà, on peut encore penser, on peut encore aimer les mots, les faire vivre, faire se rencontrer les auteurs et le public. Enfin, c'est une forme de militantisme, je crois, de militantisme vital. Et voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour elle.
Voilà, cet endroit rare au Maroc et en l'occurrence à Tanger, Les Insolites avec Stéphanie Gaou, effectivement, le lieu fait ses 10 ans. Elle a eu l'occasion de passer dans l'émission pour nous en parler. Vous restez avec nous, Samuel. On va vous retrouver dans la deuxième partie de l'émission. On va continuer à parler de votre livre. Vous me disiez tout à l'heure pendant une pause musicale qu'il y a certaines notions que vous n'avez pas l'occasion de développer récemment. Vous aimeriez le faire, mais on va le faire ensemble. En attendant une nouvelle respiration musicale, on écoute un groupe suédois, First Aid Kit. Et là aussi, c'est une suggestion que vous nous avez faite. Ce sont deux sœurs, Johanna et Clara.
I am in love. rather be shattered than hollow. Oh, I'd rather be by your side. Now I can't believe that it's been 5 years since we both stood here looking out at this city with mind so bold and thoughts so clear. We said we are gonna get out of here. We said we are gonna get out of here. From all the fears, follow what we once held dear. When will we get out of here? Now I am tired but resolute that I'd rather be striving than settle.
Bain de culture avec David Labou.
Visage enfantin, l'œil vif, rieur, le sourire en coin, l'éclat de rire qui n'est jamais loin, des lunettes cerclées, silhouette mince, élancée, élégant, décontracté, petit pull gris ouvert sur une chemise Vichy, veste marine, jean et bottines aux pieds. Nous sommes avec Samuel Doc ce dimanche. Votre livre, Éloge indocile de la psychanalyse, on continue à en parler. Mais auparavant, vous vouliez rebondir, je crois, sur le titre que l'on avait mis à la fin de la première partie, que vous aviez choisi, First Aid Kid.
Oui, pourquoi ? Parce que, en réalité, donc, quand mes parents ont divorcé, ma mère a fait une dépression assez sérieuse et nous a beaucoup enfermés, ma sœur et moi, enfermés, bien sûr, dans sa psyché. Elle était très en souffrance et très franchement, aujourd'hui, je ne sais pas comment elle a fait pour se sortir des blessures qui étaient les siennes. Et j'ai développé suite à ça une angoisse très forte de l'enfermement, d'une forme de captivité. Et je pense que j'écrirai un essai un jour sur ce sujet-là et sur comment le voyage aussi fait partie des choses qui comptent le plus pour moi. Pour moi, on n'existe que dans le voyage. Et j'ai travaillé avec la sémiologue, philosophe, psychanalyste, romancière Julia Kristeva qui en fait une véritable libération de l'être. Et cette chanson de First Aid Kit, eh ben, nous parle de ça, nous dit un jour on partira d'ici, un jour on sera libre. Alors on comprend dans cette chanson qu'ils n'y arriveront pas vraiment. Ça fait très mal, c'est très beau, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et peut-être aussi, il y a quelques temps, j'ai fait des vœux sur Facebook par rapport à l'Australie en parlant de ce continent entier qui est en train de brûler. Et je trouve que cette chanson a pris un tout autre sens pour moi. Est-ce qu'on va réussir à quitter ce pays, ce continent, cette planète qui est en train de brûler malheureusement?
Quitter la planète, ce serait un peu périlleux parce qu'a priori,
oui,
on n'a pas encore l'impression
qu'il y a vraiment c'était une métaphore, David.
D'accord, ok, très bien. Il faut tout m'expliquer, c'est ça le principe. Un abécédaire parmi les entrées que vous proposez, il y a pensée positive, la lettre P. La manie que l'on peut avoir de vouloir toujours voir le côté à moitié plein du verre, bon, cela peut être positif, ça engage à être optimiste. Mais vous soulignez les dangers de notre société basée sur la performance, la réussite, l'image que l'on aime projeter les uns les autres sur les réseaux sociaux. Il faut être cool, avoir des amis, se montrer dans les fêtes, voyager, la course au like. Hein.
Exactement. Pour moi, la pensée positive est vraiment une production de l'hyper-libéralisme où il faut être de plus performant, brillant, pour pouvoir jouir, consommer le plus possible. Voilà, c'est la société du like et ça me pose un problème parce qu'en réalité, l'être humain, c'est aussi des cauchemars, c'est aussi des fantasmes qui ne sont pas toujours beaux, mais qu'en fait, on finit par trouver beaux quand on les écoute et quand on y repère aussi notre humanité. Donc, en somme, la pensée positive, je trouve que c'est pas très humanisant, c'est une doctrine qui veut faire de nous des machines et face à ça, moi j'ai tendance à m'opposer.
Vous parliez de la crise de la psychanalyse tout à l'heure, il y a aussi donc ces, je sais pas si on peut parler de discipline en aucune façon en fait, mais ces nouveaux métiers, ces nouvelles fonctions qui peuvent concurrencer, donner l'impression de concurrencer la psychanalyse, le coaching, les coachs personnels.
Oui, ça n'a pas grand sens finalement parce qu'il y a des coachs en habillement, coach pour animaux, coach sportif, coach de promenade en forêt, coach culinaire. Enfin, il y a tout un tas de coachs. C'est vraiment une sorte d'hyper-personnalisation de chaque compétence de l'individu, alors qu'en réalité nous sommes un tout, nous sommes une constellation et ce n'est qu'en analyse que cette constellation parvient à, on va dire, j'avais une image qui me venait en tête, c'est que finalement on relie un peu les étoiles pour y reconnaître notre propre visage.
Vous utilisez le terme constellation, j'ai assisté à une rencontre hier soir où vous étiez face au lecteur et vous avez déjà utilisé ce terme constellation au sujet de votre sœur Salomé, vous expliquez les difficultés qu'elle peut avoir. Alors, il y a quelque chose qui est très à la mode ces dernières années, c'est ce qu'on appelle les constellations familiales.
Ah.
Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, le principe, si j'ai bien compris en tout cas, c'est de retracer l'arbre généalogique le plus loin que l'on peut et essayer de trouver dans sa propre histoire personnelle des choses qui vont éclairer son existence, ses propres doutes, ses propres questionnements.
Exactement. Alors, on parle aussi de génogramme, parfois. Et l'objectif, c'est qu'une personne, sur une grande feuille de papier, puisse retracer son arbre généalogique, mais en précisant ce qu'elle sait de son histoire, si elle sait s'il y a des blessures chez des aïeux. Parce que un courant de la psychanalyse qu'on appelle transgénérationnel prétend que nous portons aussi les blessures inconscientes de nos aïeux. Par exemple, si votre grand-père avait une filiation illégitime, ne l'a jamais dit et que voilà, son secret va se déposer dans votre parent et vous, vous en porterez le symptôme. C'est-à-dire que cette vérité continue à s'inscrire dans votre chair. Moi, j'ai envie d'y croire, mais je pense que ça vaut déjà le coup de se concentrer déjà sur la relation à ses propres parents. Il y a déjà bien assez de boulot entre nous. Et parfois, lorsque je pense à la psychanalyse transgénérationnelle, j'ai toujours le sentiment qu'il y a un côté un petit peu science occulte chez certains praticiens. Il y en a d'autres pour qui j'ai une admiration sans borne. Je pense à Christine Ulivucci qui réussit pour moi à faire parler les fantômes de nos âmes. Donc voilà, c'est comme tout, je crois que ça dépend du praticien et de la façon qu'il a de faire vivre ses théories.
L'analyse, la psychanalyse, moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est l'idée que cela puisse s'étaler sur des années. On peut se dire que l'on va aller chez le psy à un moment de sa vie, on ne va pas très bien pour avoir une aide, un soutien. Mais là, il ne s'agit pas d'une aide ponctuelle, on se lance dans un travail de longue haleine, on se livre à une sorte de spéléologie intérieure, creusée comme cela dans le tréfonds. Ça ne peut pas être plus rapide que cela, sur des années. Il faut vraiment des années pour que les choses puissent commencer à émerger, à faire sens.
En réalité, les choses ne sont pas très opératoires. Elles sont peut-être, je ne sais pas, opérantes, mais opératoires, je ne sais pas. À quel moment l'analyse se finit? C'était une grande question que Freud avait posée lui-même. Il disait, et je crois qu'il avait une formule où il disait finalement l'analyse se finit quand le patient et le psy n'arrivent plus à convenir ensemble d'un rendez-vous. Enfin, je trouve que cette formule est assez drôle. Tout dépend du sens que l'on y met, de ce qu'on a trouvé, de cette désaliénation en tout cas de notre désir. Je crois crois que dans l'expérience de la psychanalyse se joue un dépassionnement, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir dire voilà, ça, ça m'a constitué, et renoncer à une certaine forme d'idéal. Donc c'est quelque chose d'assez subtil, d'assez complexe, mais c'est un voyage qui existe aussi justement parce qu'il dure, et lorsque vous revenez plusieurs fois sur le divan, au bout du compte, vous avez épuisé tous les sujets du quotidien, toutes les constructions imaginaires que vous aviez bâties autour de vous-même, et là peut-être que vous avez commencé à gratter véritablement et faire des véritables associations d'idées. Je n'ai plus rien à dire, et pourtant, il y a bien des choses à dire. Peut-être que c'est par cette manière-là qu'on atteint l'inconscient.
La psychanalyse, le rôle du psychanalyste. Parmi les entrées dans votre livre, à la page 140, le mot « divan », vous dites que la forme du divan, le canapé, ce meuble sur lequel on s'allonge pour se confier à l'analyste, le style du divan lui-même en dit long sur la personnalité du thérapeute.
Alors en tout cas c'est ce que je suppose, mais c'est vrai qu'entre une personne qui va choisir un divan hyper design, froid, mais qui va se concentrer sur la parole, est-ce qu'un autre va prendre un divan type Freud avec, vous savez, les espèces de vieilles couvertures qui grattent là en velours, toutes moches, enfin bref, au secours. Après, ce que je crois qu'il est important de rappeler aussi, c'est que toutes les personnes ne sont pas prêtes à s'allonger. Il y a des patients qui ont besoin de ce qu'on appelle le face-à-face et d'être regardés, peut-être de voir se poser sur elles le regard dont elles n'ont jamais pu bénéficier. Elles ont besoin d'être étayées par cette présence de l'autre. Et c'est pour ça que les psychanalystes aujourd'hui s'adaptent aussi, et bien sûr, j'ai envie de dire, aux symptômes de leur patients. Et parfois, le regard de l'autre, c'est aussi thérapeutique.
Le fait comme cela d'être allongé, d'avoir le thérapeute derrière soi, ce n'est pas une obligation. On a dépassé cela ou ça nécessite quand même cette disposition dans la pièce?
Je pense que pour une psychanalyse, c'est obligatoire. Il faut pouvoir vraiment partir dans cet autre univers, dans ses réminiscences. Enfin, et pour ça, il faut que l'analyste se détache, qu'il disparaisse un peu pour devenir une sorte d'autre indéfini auprès duquel on cherchera à la fois des réponses et puis qui deviendra tout un tas de protagonistes de notre histoire. Mais par moment, ça peut être bien quand même d'avoir recours au face-à-face, même ponctuellement dans une cure psychanalytique classique.
Alors vous-même, quand vous aurez terminé votre analyse et que vous deviendrez psychanalyste, votre divan, il ressemblera à quoi ?
Je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre, David, mais moi, j'ai terminé, et je pense que c'est la première fois que j'en parle, ce livre, L'éloge indocile de la psychanalyse, j'en suis extrêmement fier, en définitive, parce que ça représente un vrai challenge. Je l'ai rédigé en même temps que ma thèse. J'ai beaucoup travaillé. Il représente la synthèse de beaucoup de choses pour moi, d'engagement théorique, de pratique clinique. Mais je me demande si je ne vais pas m'accorder aussi une petite pause quand j'aurai fini mon doctorat, pour revenir à mon amour de la littérature, pour faire du roman. Je crois que c'est une chose aussi qui me tient à cœur, retrouver son désir. Lacan disait, on n'est jamais aussi coupable que lorsqu'on transige sur son désir, et mon désir à moi, c'est aussi de faire vivre l'imaginaire. Donc, c'est pas sûr que j'exerce tout de suite en tant que psychanalyste, c'est pas sûr que je maintienne mon activité de psychothérapeute. Je me demande si je vais pas m'autoriser un autre voyage, celui de la littérature.
Samuel Doc, avec nous dans Bain de Culture, on marque une nouvelle pause. Cette fois, c'est moi qui ai choisi la chanson, et vous savez quoi ? On réécoute Zazie, on l'avait un petit peu écourté dans la première partie. On écoute cette fois-ci Zazie en entier avec cette chanson « Tout le monde ».
Antonio, faire de la peine à Jean-Marie.
Voilà Zazie avec cette chanson, tout le monde, Salman, Lohan, Peter, Gunther, Martine, Kevin, Tatiana, Zorba, tout le monde il est beau, quitte à faire de la peine à Jean-Marie, allusion au leader d'extrême droite bien sûr en France. Quand j'écoutais cette chanson, j'ai pensé à un buzz malheureux il y a un an, un célèbre polémiste français d'extrême droite qui avait dit à la télévision à une chroniqueuse dont le prénom n'était pas chrétien, un prénom différent, il avait eu cette phrase insensée, lui avait dit « vous faites honte à la France ». Vous vous souvenez de cette histoire ?
Bien sûr, et je n'ai même pas envie de donner le nom de ce triste personnage, parce que ça me renvoie à ce que devient un petit peu la pensée et la culture dans mon pays, le pays quand même des Lumières, qui est devenu une sorte d'espace où des polémistes nous font part de leurs opinions sans jamais faire de recherche sur les sujets dont ils parlent, qui ne sont absolument pas des universitaires, qui ne sont pas des journalistes d'ailleurs, même pas. Je me rappelle aussi, d'ailleurs c'est aussi le cas de certains politiques, je me souviens avoir fait une émission il n'y a pas longtemps sur les violences éducatives ordinaires. J'ai assisté à des agglomérations incroyables de clichés, de stéréotypes, et c'est terrible. C'est vraiment terrible de voir ce qu'on est dans le culte de l'opinion et que ça ne va pas très loin, mais ça a de vraies conséquences sur certaines personnes.
Alors, puisque nous y sommes justement, allons-y à la lettre X, le mot xénophobie. Vous racontez un souvenir, vous étiez dans une conférence face à vous, un psychanalyste qui énonçait des choses très doctement, et les références de cet homme étaient uniquement occidentales, limitées vraiment à un univers. Il estimait que c'était l'universalité, elle était là, elle se limitait à cela.
Oui, exactement, c'est un souvenir assez grinçant, puisque c'était un homme qui nous expliquait comment se faisait alors la construction dans la psyché de je ne sais plus quelle représentation, et il disait « ça se fait grâce à la peinture ». Et il donnait que des exemples de peinture, alors Rembrandt, etc. Donc des références très occidentales. Et une personne qui était à côté de moi, qui est une amie d'origine éthiopienne, s'est opposée et a dit « Écoutez, mais comment, enfin, nous, c'est pas comme ça. » Et voilà, et c'est comme des personnes qui ont aussi une représentation. Il y a d'autres références. Et il s'est vraiment énervé. Il s'est mis dans... Parce que c'était... Voilà, il aurait pu répondre calmement. Il s'est vraiment énervé. Il était dans quelque chose d'une grande résistance. Et on devinait une très, très forte fermeture à l'autre dans ce propos-là. Et c'est un problème. C'est un problème pour moi que certains analystes puissent être racistes, homophobes, misogynes. Ça me dérange. On est censé être les gardiens, les protecteurs de l'inconscient. Et l'inconscient se fiche de votre nationalité, de votre orientation sexuelle, de votre genre, de quoi que ce soit. Il y a tout dans l'inconscient. Et c'est pour ça aussi que je suis définitivement indocile. Indocile parce que l'inconscient l'est.
On parle souvent de neutralité pour un psychologue, pour un psychiatre, pour un psychanalyste. De fait, personne n'est vraiment tout à fait neutre. On est fait de notre histoire, de nos affects, de notre itinéraire. Et voilà, cette idée qu'on est complètement transparent, neutre, non, ça n'existe pas, ça, c'est pas possible.
C'est impossible, c'est impossible. Le psychanalyste Tammy Ayouch, à qui je salue s'il nous écoute, je crois qu'il vous écoute, eh bien, a bien montré dans son livre, je n'ai plus le titre exact malheureusement, Hybridité et discours décolonial, enfin vous le retrouverez facilement sur Internet, explique que la neutralité est vraiment un mythe, que bien sûr que quand un psy il reçoit quelqu'un, s'il est homosexuel, s'il est noir, s'il est, je ne sais pas, voilà, une femme, s'il est, bien sûr que ça va titiller certaines idéologies. Et le mieux, c'est de les reconnaître, parce que si on reconnaît qu'on n'est pas forcément neutre, ça va éviter d'agir dans son discours, eh bien, cette partialité. Il faut pouvoir reconnaître ce qu'on éprouve pour le patient, aussi bien sur un plan émotionnel que sur un plan idéologique. Les concepts que nous utilisons sont aussi des productions idéologiques qui doivent être remises dans un contexte historique pour être comprises. Ce ne sont pas des vérités objectives, objectivantes, opératoires, opérantes, ce sont ce qui constitue une mythologie aussi avec laquelle on travaille, qui peut représenter une certaine clinique, une certaine réalité matérielle, mais qu'il faut aussi sans arrêt faire vivre et recontextualiser.
Vous ne parlez pas que de vos... Oui, recontextualiser parce qu'on est imprégné en fait, par le monde qui nous entoure, oui. Par notre époque, par la société dans laquelle on vit. Dans votre livre, vous ne parlez pas que de vos patients, vous parlez aussi de divertissement, de jeux vidéo, vous parlez de la pop culture au sens large.
Oui, exactement, je trouvais que c'était important et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Alors bien sûr, je parle de mon histoire, je parle de mes patients, mais par exemple, pour parler des guerres entre les psychanalystes, je n'hésite pas à faire référence à Game of Thrones. Pour parler du déni, je me suis amusé à faire la liste de tous les films qui utilisent, enfin de tous les films, c'est un peu prétentieux, mais d'un certain nombre de films qui utilisent le déni pour construire leur intrigue. À inquiétante étrangeté, alors c'est un sentiment d'inconnu familier que les psychanalystes connaissent bien. Je parle du travail de Gregory Crutzen, qui est un photographe magistral et qui a, alors pour la petite anecdote, son père était psychiatre et il écoutait sous le plancher les confessions de ses patients, et je crois que dans ses photos en fait il fait vivre cet imaginaire reconstitué. Et voilà, il y a beaucoup de références, le jeu vidéo. Alors moi je suis un peu geek, vous savez, donc je me suis amusé à donner des références aussi de jeux vidéo, mais qui ne feront pas peur aux lecteurs lambda, je les rassure. Je parle de la littérature, de The Hours, le film bouleversant avec Meryl Streep, Julianne Moore. Beaucoup
pas
de références
joyeux.
Non, pas franchement joyeux, mais c'est ça qui est... Je pense que je suis un peu comme Julia Kristeva, je pense que je suis un pessimiste énergique. Ah, donc voilà, tout n'est pas perdu.
Pour finir, Samuel, une entrée dans votre livre, l'un des premiers mots, l'une des premières notions que vous éclairez, la lettre A comme amour. Et l'amour, il revient tout au long de votre livre comme un leitmotiv. Vous répétez cette phrase inlassablement, c'est toujours d'amour dont il s'agit. L'amour comme
bien
étant
sûr.
La clé de tout.
Bien sûr, et d'ailleurs Freud nous disait qu'une personne bien portante psychiquement est apte à aimer et travailler. L'amour, c'est la capacité à entrer en lien avec l'autre. L'amour, alors je parlais de Kristeva il y a quelques instants, elle nous dit qu'au commencement était la haine. Au début, le moi n'aime pas l'autre. Ça nécessite une perlaboration, ça demande un travail d'aller vers l'autre. C'est un acte de générosité que celui d'aimer. Et pourtant, c'est à la base de tout. Eros, c'est ce qui construit les sociétés, c'est ce qui construit l'art, c'est ce qui construit la pensée, c'est ce qui nous permet, c'est la colonne vertébrale même de l'identité. Nous aimons, nous gardons en nous chaque être que nous avons aimé, auquel nous tenons. Donc l'amour, je pense que c'est la clé de tout. Mais il ne faut pas en avoir une vision, encore une fois, romantique et rose bonbon. Il faut simplement considérer qu'il s'agit du lien à l'autre, de sa densité et cette magie que peut être l'attachement à l'autre. L'amour, c'est aussi les premières interactions entre la mère et l'enfant, sans lesquelles, on le sait, lorsqu'elles sont défaillantes, en tout cas, il peut y avoir des conséquences graves à l'âge adulte sur la psyché. L'amour sauve, l'amour fait vivre, mais encore une fois, pas l'amour des magazines.
Vous citez Lacan. Lacan, il n'était pas dans les magazines. Il peut être cité, en même temps, c'est un peu méchant, ça dépend de quel magazine on parle. Il a eu cette formule, l'amour consiste à donner ce que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas.
Voilà, interro surprise, parce que cette phrase est pas simple, mais c'est pour dire qu'en réalité, nous sommes des êtres de manque, et ce que nous donnons à l'autre, c'est notre manque, et il n'en a pas vraiment besoin, l'autre, de ce manque-là. On aime l'autre parce qu'on est convaincu qu'il détient des réponses sur nous, une vérité. Lorsque nous parlons à quelqu'un, nous nous adressons en réalité à un lieu du symbolique, à un lieu de la culture, à un espace du langage dont on espère quelque part une réponse de vérité sur notre être, et ça, c'est quand même la base de l'amour.
Samuel Doc dans Bain de Culture avec nous ce dimanche. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission, Samuel. Votre livre Éloge indocile de la psychanalyse s'est publié aux éditions Philippe Ray. Merci beaucoup.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
On se quitte avec le chanteur français L'Homme Pâle. La semaine prochaine, à cette même place, c'est Florence Blanc que vous retrouverez pour une nouvelle émission de Bain de Culture. Pour l'heure, je vous souhaite de passer une excellente journée avec nous sur Média. Un bon week-end, à bientôt.
J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes.
Hey, ces larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesserait même avec zéro mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Maintenant tu bois et tu veux bien de moi. Non mais j'hallucine, hein. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve. Soit je la quitte en lui disant: garde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Bébé, ça moins fort que j'oublie que c'est le chaos. Autour c'est le chaos. Regarde-nous le destin, pas honte. Les dieux ont pas honte. J'ai tout foiré cette année, c'est toujours en chantier. Est-ce qu'on peut revenir en janvier? Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille. On dirait bien qu'on est cuit, nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. Parce que c'est comme de la drogue, on a de quoi planer. Sur son dos, mon corps, je fais de l'aquaplaning. Le problème, c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime. Je revois le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme dans un film de merde. Mais c'est du délire, garde le sourire. Plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai.